Religion en regard sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes sur Radio Alliance Plus, le 103.2, et vous écoutez Christian Hervault au micro. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage d'être avec Claire Desménard, que vous connaissez tous bien, puisqu'elle a été pasteur. Je dis « elle a été » parce qu'elle va partir tout bientôt. Je crois que beaucoup de personnes le savent. Mais si vous ne le savez pas, ben voilà, vous allez avoir une petite larme dans les yeux parce que Claire Desménard va nous quitter à la fin du mois pour d'autres horizons, tout au nord, pour travailler dans deux domaines différents. Peut-être, Claire Desménard, vous pourrez nous en parler si vous avez envie d'en dire quelques mots.
Pourquoi pas ?
Et je rappelle qu'elle est présidente, encore pour quelque temps aussi, donc de l'Université populaire des religions, qu'elle a mis en place, pas toute seule, mais en grande partie sous son impulsion, ce dont nous la remercions vivement. Et donc, cette université populaire va continuer. Et elle a eu comme animateur, philosophe, Philippe Corcuff, que je reçois aussi aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous avez été avec Claire Desménard en relation avec elle pour cette université, mais je peux dire déjà que vous êtes sociologue, philosophe, professeur des universités en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon, et puis vous êtes écrivain, chroniqueur. Voilà, tout plein de choses. Vous animez aussi des ateliers philo à Nîmes, avec le Sémaphore et au Café Olive. Voilà, déjà une petite partie de vous. Et nous allons un peu profiter de votre présence pour en savoir plus. Et puis pour savoir un peu comment Claire Desménard et vous-même, Philippe Corcuff, vous vous êtes rencontrés et vous avez parlé de cette université populaire et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir en faire partie. Je laisse la parole à Claire, peut-être pour le démarrage, et puis ensuite vous nous direz ce qu'il en est pour vous, si vous voulez bien.
Merci Christiane. Alors effectivement, quand on a commencé à réfléchir à ce projet d'université populaire des religions, avec quelques personnes donc, se sont posées beaucoup de questions bien sûr. Il y a eu deux volets je crois dans cette réflexion. D'abord la réalité de la présence un jour à Nîmes d'une université populaire, donc ça paraissait tout à fait normal de finalement prendre contact avec la personne qui en avait été à l'initiative dès le départ. Même si le projet d'université populaire des religions est un petit peu différent. Et puis ensuite aussi pour réfléchir à la place de l'agnosticisme dans ce projet d'université populaire des religions. Et donc c'est vrai que pour ces deux raisons, eh bien, Philippe Corcuff paraissait être tout à fait la bonne personne pour élaborer quelque chose ensemble. Donc ce sont dans ces conditions que nous sommes rencontrés. Alors sur la recommandation aussi d'Olivier Abel, qui faisait partie aussi des personnes avec qui on a réfléchi sur ce projet. Olivier Abel, donc, qui était nîmois aussi jusqu'à il y a peu, qui ne l'est plus, mais avec qui on reste en lien, bien sûr, et avec qui, justement, s'était fait un travail dans le cadre de cette université populaire à l'époque. Donc, c'est comme ça, je crois, qu'on a pris contact il y a maintenant une petite année.
Oui.
Voilà. Donc, vous vous êtes rencontrés, c'était à votre initiative, je suppose, Claire ? Parce que vous aviez entendu parler de Philippe Corcuff.
Tout à fait.
Et de d'une université populaire à Nîmes.
J'avais entendu.
C'est pas si vieux que ça, Philippe Corcuff, cette université populaire à Nîmes que vous aviez démarrée.
L'université populaire à Nîmes est née ici il y a une quinzaine d'années. Bon, elle s'est d'abord appelée Université populaire de Nîmes, puis Université critique et citoyenne. Et elle s'est arrêtée il y a quelques années, pas parce que ça marchait pas, c'est parce qu'un des animateurs principaux est décédé brutalement d'une crise cardiaque, ça a un peu traumatisé les autres, ils n'ont pas voulu relancer les choses, donc voilà. Moi je les aidais surtout pour faire venir des gens de l'extérieur, pour constituer le programme, mais... vivant à Nîmes, mais travaillant à Lyon, je n'étais pas toujours là, et donc ce n'était pas moi qui pouvais m'occuper complètement de ça. Donc voilà, donc ça a existé assez longtemps, et Olivier Abel a été un des participants, notamment il avait présenté la philosophie de Podricker dans le cadre de l'Université critique et citoyenne. Voilà un peu donc l'idée de rebondir sur les religions m'a semblé intéressant, d'autant plus que en 2016, j'avais écrit un petit livre qui s'appelait « Pour une spiritualité sans Dieu », où j'essayais de... À ce moment-là, je m'étais rendu compte que, contrairement à ce que je pensais jusqu'à présent, je n'étais pas, à proprement parler, athée. Notamment parce que cette obsession de certains athées militants pour essayer de montrer que Dieu n'existe pas me semblait un peu puéril et peu intéressant. Et donc, en creusant, j'ai considéré de plus en plus, et c'était l'objet de ce livre, que la spiritualité au sens de l'exploration du sens et des valeurs de l'existence était un domaine important, y compris pour la politique. Et que une spécificité agnostique, c'était de suspendre la question de savoir si on pouvait parler d'un dieu ou pas. Simplement, c'est la suspension, en mettant entre parenthèses la question. Voilà. Mais pas dans une sorte de combat contre, disons, les religions, qui est souvent le cadre de l'athéisme militant.
Mmh. Mais il me semble que le titre de votre livre, c'est « Sans Dieu », avec un petit « d » et un « x » à la fin.
Oui. Il y en a plusieurs, oui. Il y a plusieurs
c'était
dieux, voilà.
C'était pas le dieu,
non,
enfin voilà.
Voilà.
Tel qu'on peut le nommer quelquefois, voilà, oui. Un peu à tort et à travers d'ailleurs. Hein. Donc il y avait une pluralité, je pense, de réflexions. Là. Je n'ai pas encore lu votre livre. J'ai noté le titre. Ça ne saurait tarder, comme on dit. Donc voilà, donc ça vous a... Ça vous a étonné qu'il y ait cette possibilité de faire l'Université populaire des religions à Nîmes ? Ça vous a propulsé vers quelque chose de...
Non, moi, ça ne m'a pas étonné. Ça, c'était un projet intéressant. Ce qui m'a étonné, c'est que Claire puisse penser qu'un agnostique puisse avoir sa place avec les religions, les différents monothéismes qui étaient partie prenante du projet. Ça, c'était plus... Disons, nouveau, pour moi. Voilà.
Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu plus l'agnosticisme, ou votre façon de le concevoir, en tout cas, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ? Pas qu'ils soient trop effrayés non plus, mais qu'ils n'aient pas peur d'aller à l'Université populaire des religions s'ils se font des idées. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant aussi que Claire vous ait invité à participer, ainsi que d'autres personnes d'ailleurs, peut-être plus éloignées des religions traditionnelles, on va dire.
Je crois que c'est l'enjeu aussi, effectivement, hein, de réfléchir à ces questions depuis différentes perspectives, depuis différents points de vue. Et c'est vrai que, comme tu l'as souligné, le titre de ce livre, « Pour une spiritualité sans Dieu », au pluriel, finalement, ça rejoint aussi certaines réflexions des religions sur le besoin de se détacher des idoles, et d'une forme d'idolâtrie dans le rapport à Dieu, ou, voilà, dans le rapport à ce que les textes appellent Dieu. Donc, voilà, je crois qu'il y a plusieurs pistes de réflexion communes, même si nous venons d'horizons différents, et que ça fait partie aussi de la richesse de ce projet, de pouvoir explorer ça.
Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait.
Oui, le point de départ de ma réflexion, c'est un penseur pré-socratique, qui a mauvaise réputation, Protagoras, donc c'est considéré comme, disons, une figure du sophisme. Et le sophisme, c'est quelque chose qui a été dévalorisé parce que c'est comme machiavélisme. C'est-à-dire qu'on a construit à partir de ce courant un adjectif et un substantif négatif qui ne correspond pas du tout, hein, comme le Machiavel n'a rien à voir avec le machiavélisme, à mon avis, et Protagoras n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un raisonnement sophistique, etc., qui serait en fait une perversion du raisonnement d'une certaine façon. C'est comme ça que c'est rentré dans la langage courante. Or, le propre de Protagoras et son intérêt par rapport à Socrate, Platon ou Aristote, c'est qu'il était démocrate. Il défendait la démocratie, ce qui n'était pas le cas des trois autres. Bon. Donc, j'ai trouvé étrange qu'un démocrate soit tellement dévalorisé et qu'un penseur comme Platon, dans nos sociétés démocratiques, qui pense que ce sont les philosophes qui doivent gouverner la cité, donc dans une logique très hiérarchique, soit au contraire très valorisé. Bon, donc ça me semblait. Donc de Protagoras, il ne nous reste pas grand-chose, mais il nous reste des fragments, comme beaucoup de ces penseurs présocratiques. Et il y a deux fragments qui sont intéressants. L'idée que la mesure de toute chose, c'est l'homme. Alors, ça a été, disons, mal interprété par Platon, puis son élève Aristote, parce qu'on en a fait quelque chose de relativiste, comme si, en fait, ça dépendait de chaque individu, la vérité, la morale, etc. Bon. Or, les relectures de Protagoras ont mis en évidence que l'homme, c'était le genre humain, et que ça voulait dire simplement que la question de la vérité, la question de la morale, etc., renvoie à des conventions humaines, ce qui n'est pas un relativisme, comme une loi, une constitution, un langage sont des conventions humaines, et c'est pourtant pas créé par tel ou tel individu à chaque moment. Donc c'est des vérités, en fait, d'ordre intermédiaire, c'est pas des absolus, mais c'est des formes plus stables qui font converger les sociétés humaines à tel ou tel moment sur un langage, sur une règle, sur une convention, etc. Bon. Donc il y avait déjà ça qui réinstaurait la dimension humaniste, disons, de la vérité et de la morale, qui me semblait importante. Et puis, il y a un autre fragment où Protagoras dit à peu près « Pour les dieux, je ne sais pas quoi en dire parce que ils ont une durée de vie trop grande par rapport à ma vie à moi, donc je ne peux rien en dire. Bon. » Alors ça m'a semblé intéressant parce qu'on peut dire que c'est une des premières formulations de l'agnosticisme. Un peu, on pourrait dire, c'est la variante France Gall dans le rapport à la religion. Il y a une chanson de France Gall qui dit « Trop grand pour moi ». Bon. Trop grand pour moi, comme si c'est trop grand pour moi, il vaut mieux que je mette entre parenthèses. Voilà.
Ça peut effrayer.
Ça peut effrayer, puis ça peut aussi faire perdre son temps. Donc la question de la mise en parenthèse, c'est une économie. Peut-être qu'il y a d'autres choses à s'intéresser, par exemple, l'homme, la mesure de toute chose, donc toutes ces conventions humaines qui font les sociétés humaines, peut-être c'est plus intéressant de s'y intéresser que de s'intéresser à cette forme, disons, qui renverrait un absolu et qui aurait une durée de vie beaucoup plus grande que une forme d'intemporalité par rapport à la vie humaine. Donc, ce geste de mise en parenthèse, qui n'est pas une négation, mais qui se déplace vers quelque chose qui est plutôt l'insertion dans les activités humaines et dans les conventions humaines. Bon, voilà. Donc voilà, c'est ce geste de Protagoras qui m'a, disons, orienté. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé à partir... Je travaille beaucoup à partir des chansons, des séries télévisées, du cinéma, à Sciences Po aussi dans mes cours. Et donc, il y a une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Et si en plus, il n'y a personne ?» qui est une chanson qui pose la question « Mais comment les religions, c'est si magnifique et en même temps, c'est si meurtrier ?» Et il y a une sorte d'incertitude qui se crée, cette tension, entre le caractère, disons, merveilleux des sensibilités, des passions, des actes moraux que suscitent les religions, et en même temps le caractère terrible des actes meurtriers qu'elles suscitent. Bon. Et si en plus il n'y a personne. Bon. Et alors, voilà, dans cette tension, il me semblait qu'il y avait un appui aussi pour une position, disons, agnostique, qui reconnaît les apports des religions, mais qui s'inquiète des possibles usages de ces religions. Voilà un peu, c'est autour de ça que ma réflexion s'est constituée, autour de la question agnostique et le fait qu'il puisse y avoir une spiritualité, mais qui ne soit pas nécessairement religieuse.
D'accord, très bien. Non, je crois que c'est bien, on comprend bien et clair. Claire lève le doigt, comme une de vos étudiants peut-être, quoique à l'université peut-être on lève plus le doigt, je ne sais pas.
Alors ça aurait pu être le cas parce que c'est vrai que j'avais fait un mémoire en économie sociale et solidaire sur l'ingénierie de projet en économie sociale et solidaire où je m'étais intéressée à la question des utopies participatives. Alors dans ma bibliographie il y a quelque part effectivement le nom de Philippe Corcuff, mais c'était en réalité vers Madame l'animatrice de cette émission que je me tournais pour savoir si je pouvais prendre la parole.
Oui, bien
simplement
sûr.
Parce que ça m'évoquait ce qu'un ami me partageait un jour, un ami que peut-être certains auditeurs de Radio Alliance Plus connaissent aussi, c'est Alex Lapo, qui soulignait que pour lui, le solfège est à la musique ce que la religion est à la spiritualité. Et je crois que c'est une très belle réflexion, enfin moi qui me parle beaucoup parce que j'aime la musique aussi, et je pense que la spiritualité est effectivement quelque chose qui déborde le cadre des religions, qui le déborde infiniment. Justement, les religions ont peut-être essayé d'amener de la mesure et une réflexion dans quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue cette idée que, dans effectivement l'idée de Dieu, il y a quelque chose de démesuré. Et je crois que ce qui est intéressant dans les religions et la proposition laïque de les étudier, c'est de regarder comment est-ce que justement à différentes époques, dans différents contextes historiques, culturels, comment est-ce que des humains ont essayé de mettre en mots, de mettre en solfège finalement cette musique qui est incroyable, fabuleuse et qui certainement peut être pensée aussi en dehors de ces cadres-là. Et pour autant, je crois que c'est intéressant de respecter aussi tout ce qui a pu être pensé jusqu'ici. Alors il y a pu avoir des erreurs aussi, hein, mais tout ce qui a pu être pensé finalement l'a été, j'allais dire pour de bonnes raisons, en réponse aussi à certaines questions. C'est ce que Olivier Abel dit aussi régulièrement, l'idée de réfléchir à la question à laquelle les personnes d'un temps révolu ont essayé de répondre. Et donc même si certaines réponses aujourd'hui peuvent nous paraître dérisoires ou complètement déplacées, finalement ça devient intéressant à partir du moment où on le replace dans le contexte de la question initiale à laquelle ils ont essayé de répondre. Et je crois que là, voilà, il y a énormément de perspectives qu'on peut croiser et des dialogues très enrichissants à poursuivre.
Alors je rajouterais juste pour mettre un petit grain qui gratte, peut-être que ce n'est peut-être pas, Dieu n'est peut-être pas si loin que ça, et peut-être pas si grand, et qu'il est venu vers nous d'une certaine façon, et que peut-être il peut être un Dieu intime, il peut être une personne intime avec laquelle on peut côtoyer intimement. Et peut-être que, je ne sais pas si pour vous, par l'intermédiaire d'Emmanuel Lévinas, comme vous avez proposé une animation sur le regard de Lévinas, moi ça me dit quelque chose du regard de Dieu sur l'homme, sur l'humain, avec la bonté et l'amour. Mais je suis peut-être trop loin dans l'euphorie. Pourquoi vous avez, et comment l'un et l'autre, vous avez pensé à cette animation autour de d'atelier philo, donc qui a eu lieu au Café Olive au mois d'avril, je crois.
De mai.
Autour d'Emmanuel Lévinas.
On se posait la question de la collaboration entre l'atelier philo et l'Université populaire des religions, et il m'a semblé que Lévinas, il avait sa particularité d'être commenté par différents auteurs. C'est-à-dire, il y a des philosophes athées pour qui Lévinas est important, comme Jacques Derrida ou Miguel Abensur. Lévinas a été important dans la discussion avec Lévinas, avec, disons, un philosophe protestant comme Paul Ricoeur. Et Lévinas joue un certain rôle dans certains textes du pape François, décédé récemment. Bon. Et donc, c'était une figure qui pouvait faire un lien entre une spiritualité protestante, catholique, juive et athée. Voilà. Et donc, ça semblait un élément intéressant autour de la question de ce qu'il considère comme étant l'éthique. L'éthique étant, pour lui, une sorte d'ouverture. Alors, on peut le comprendre, on pourrait le comprendre, parce que chez Lévinas, les textes, il y a des textes religieux, il y a des textes philosophiques. Il n'a jamais mêlé les deux. Donc ce sont des livres différents, hein. Il a toujours tenu, mais en fait quand même il parle de choses proches, mais avec des matériaux différents. Hein. Bon. La vision qu'il a de l'éthique, c'est une ouverture par rapport aux troubles que crée en moi, la souffrance d'autrui, un autrui singulier. Voilà. Et donc ça m'oblige à sortir des catégories générales. Bon. Et donc c'est une pensée de la singularité d'un autrui, mais qui, d'une certaine façon, suppose, passe par une relation intersubjective. C'est pas la singularité du moi, comme dans la vision, disons, classique, disons occidentale, libérale, où le point de départ c'est le moi autonome ou indépendant, et puis après vient la relation. Là, la relation vient me troubler directement et devenir d'une certaine constitutive de moi d'un trouble. Bon. Et je deviens, ce faisant, responsable, cette expérience étrange, responsable de quelque chose dont je ne suis pas responsable. Alors, moi, je me suis intéressé à Lévinas il y a longtemps, en sociologie, parce qu'avec une philosophe, on avait constitué un modèle à partir de Lévinas, ce qu'on a appelé... interpellation éthique dans le face-à-face, et on s'intéressait à savoir comment dans certaines situations on pouvait être troublé, interrogé, tourneboulé par, le sentiment, de détresse d'autrui. Bon. C'est par exemple cette expérience qu'on peut avoir dans le métro à Paris où, par rapport à un sans-domicile fixe ou... que on donne de l'argent ou pas, pourquoi on va tourner la tête, pourquoi on se sent mal que l'on donne ou que l'on donne pas, et qu'est-ce qui se passe dans cette expérience. Bon. Alors, nous, on en a fait une expérience sociale, hein, qui n'est pas forcément religieuse, mais qui existe au plus profond de la vie sociale. Bon. C'est intéressant pour la politique aussi, puisque je fais de la science politique, mais aussi je suis engagé, disons, dans la politique émancipatrice, c'est que ça veut dire que, contrairement à ce que l'on dit, dans les relations sociales les plus ordinaires, il n'y a pas que l'intérêt, le calcul, etc., les rapports de force, mais que dans la socialité la plus ordinaire, il y a des formes, disons, de relations qui peut-être sont intéressantes dans ce sens, elles anticipent la possibilité que la société soit différente.
Bon. Il y a bien le lien avec la politique.
Au plus ordinaire, au plus ordinaire. Oui, voilà, oui. Donc c'est pour ça que Lévinas a été choisi. Hein, c'est ce lien, cette vision ouverte, disons, de l'éthique, comme un trouble, comme une perturbation, hein, comme une interruption par rapport au cours évident de la vie ordinaire, par rapport à, disons, aux nanocatégories, à la façon dont on va standardiser les choses facilement, on va se fermer, hein, facilement. Voilà, et donc il y a quelque chose qui nous semblait intéressant à l'atelier philo pour ça, et qui pouvait faire le lien entre... Des athées et des croyants. Hein. Si on peut appeler croyants, parce que maintenant j'ai un doute, c'est que j'ai un ami qui est comme moi anarchiste, mais qui est théologien catholique au Collège des Bernardins à Paris, donc c'est pas courant, il s'appelle Jérôme Alexandre, qui vient de sortir un livre récemment dans le sillage de Jacques Ellul. Son livre, c'est « Le christianisme est un anarchisme ». Bon, Ellul avait déjà fait un livre dans ce sens-là. Et il a écrit un livre très intéressant avant qui s'appelle « La foi n'est pas ce que l'on croit ». Alors évidemment, il y a un jeu de mots dans « La foi n'est pas ce que l'on croit », mais pour lui, la foi n'a rien à voir avec une croyance. Oui. C'est une ouverture à un questionnement, et même pour lui, c'est l'antinomie de la croyance. Alors, c'est vrai qu'on appelle... On parle de croyants, et je continue, parce que je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser maintenant que j'ai des doutes sur le fait que les gens qui sont inscrits dans une réflexion religieuse soient des croyants. S'ils ne sont pas des croyants, qu'est-ce qu'ils sont ? Ça, je n'ai pas le mot. Mais en politique, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de croyants athées. Et donc, il y a sans doute beaucoup de croyants dans les milieux religieux, mais il y a disons, cette ouverture, ce questionnement qui n'est pas, relève pas nécessairement de la croyance, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, hein, et qui pourrait rassembler des gens qui se considèrent comme athées ou qui se considèrent comme juifs, protestants, musulmans, catholiques.
Eh bien, la question est ouverte, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, malheureusement, dans mon émission, pour élargir le sujet fort intéressant que vous nous proposez là. Et on va justement faire un petit break avec de la musique. Vous nous avez proposé Zaz, Je pardonne. Eh bien voilà, on va l'écouter, puis nous nous retrouvons juste après ensemble pour continuer et terminer cette émission.
Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix, bien sûr que ça reste là. Mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière, des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez sur le 103.2 et puis vous pouvez aussi nous écouter en DAB+, et bien sûr aller sur le site radioallianceplus.fr pour nous écouter tous nos podcasts. Je suis toujours et encore avec Philippe Corcuff qui fait partie de l'Université Populaire des Religions de Nîmes, et avec Claire Desménard, sa présidente encore pour quelques jours. Et nous avons débattu avec Philippe Corcuff de son implication en tant qu'agnostique, peut-être pas pour si longtemps que ça, après tout, on ne sait pas, pour, sur le projet de l'Université Populaire des Religions, et la suite, peut-être, puisqu'il va y avoir une suite Je me tourne donc vers vous, Claire Desménard, pour nous dire un petit peu ce qui va en être pour l'an prochain. Est-ce que, puisqu'il y a d'une part votre départ, il y a donc une suite avec un autre ou une autre présidente, je suppose. Peut-être vous pouvez nous en dire plus maintenant. Et puis, qu'est-ce qui est proposé pour l'année prochaine, déjà en tout cas peut-être vous reviendrez aussi, Philippe Corcuff, nous l'espérons, en tout cas, pour continuer peut-être Lévinas ou autre chose pour oui. nous proposer. Claire Desménard, je vous laisse la parole.
Oui, alors je rebondis sur la conversation précédente aussi au sujet de Lévinas, oui. puisque, en effet, ça fait partie du programme de l'année prochaine. Il va y avoir une suite à cet atelier, en tout cas, voilà, cette collaboration qu'on a vécue au mois de mai au Café Olive, entre l'atelier philo et puis l'Université populaire des religions. Donc, on va bientôt d'ailleurs se retrouver pour sélectionner des textes d'Emmanuel Lévinas qui pourront être lus au mois de novembre en partenariat avec la Maison des littératures à voix haute. Donc, effectivement, on continue avec Lévinas et je pense que c'est très bien ainsi. Et on continue avec voilà, pas mal de choses, en effet. Alors, il y a différents axes hein, de travail possibles, évidemment. On doit en sélectionner quelques-uns, être pragmatique aussi, faire avec les propositions que nous recevons, et puis les possibilités des uns des autres. Alors, tout n'est pas encore complètement calé, mais voilà, il y a la question du rapport au texte, hein, avec laquelle on a commencé d'ailleurs en proposant un cours pilote, Penser Dieu, c'est humain, à propos justement de ces humains qui se sont sentis l'inspiration, disons, d'écrire sur quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, on a commencé ce cours pilote avec Céline Romer sur le Nouveau Testament, comme texte fondateur auquel les chrétiens, croyants ou questionnants, ont l'habitude de se référer. Et puis, on va continuer dans cette question du rapport au texte avec la langue dans laquelle ces textes ont été écrits. Voilà, mais on ne va pas aller on va pas rester sur le Nouveau Testament, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'hébreu. Donc il va y avoir des cours d'hébreu biblique avec Joël Trefcon. On envisage aussi quelque chose sur un point de vue assez transversal finalement sur les religions, leur place en fait dans la société française. La laïcité, la place que reçoivent chaque religion dans les différentes structures de notre société, en partenariat avec l'Université de Nîmes. Et puis on envisage aussi un parcours finalement médiéval avec trois grandes figures, donc Maïmonide, Averroès et Thomas d'Aquin, qui ont eux aussi posé cette question de Dieu, chacun à leur manière. Et en tâchant bien sûr de faire référence aussi à la façon dont ça a pu imprégner la culture locale, Nîmes et aux alentours de Nîmes. Il y a par exemple cette Académie de Vauvert dont on avait parlé avec Daniel Benfredge la dernière fois, donc qui va faire partie de cette présentation sur Maïmonide en l'occurrence. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Également un café mortel, Café de la mort, avec Jean-Paul Sauzède, où là, effectivement, ça va être plutôt des rencontres dans des cafés pour avoir un espace de parole sur la mort. Pas forcément directement lié aux religions, d'ailleurs. Hein. L'idée est vraiment de pouvoir explorer cette dimension-là de la mort, du deuil, de la fin de vie aussi, et de pouvoir parler de ces sujets. Donc voilà, ça fera partie du programme de l'an prochain. Vers le deuxième semestre, on parlera poésie et spiritualité, avec le bien nommé Frédéric Dieu, que je ne connais pas, mais voilà, qui viendra à 6 reprises pour, selon différents thèmes, en fait, aborder la façon dont diverses religions ont pu s'exprimer poétiquement. Donc, voilà, j'ai pas encore les thèmes, mais en tout cas, on aura droit à la poésie. Et ça me paraît aussi un sujet important.
Très bien, ben voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent et à bien réfléchir et à des rencontres aussi très, très diversifiées. Ça va être tout à fait passionnant. Donc ça devrait commencer en septembre ou est-ce que vous avez déjà une idée d'une date, ou bien est-ce que comment ça va être diffusé les prochaines
alors oui très bonne question
programme. Les pré-programmes.
On n'a pas encore de date de commencement. En tout cas, parmi les projets et les coopérations, puisque ça fonctionne aussi de cette façon, il est aussi question d'un partenariat avec le Sémaphore et le festival Hispanim, qui aurait lieu début octobre, avec une réflexion sur les théologies de la libération. Donc voilà, ça ce serait aussi en partenariat avec le Sémaphore et puis certainement ce festival Hispanim. Mmh. Il y aurait également un partenariat avec le CREC, qui est le Centre de Réflexion et d'Études Chrétiennes, qui est un centre catholique et qui proposera aussi, qui propose toujours d'ailleurs un certain nombre de conférences, et donc certaines de leurs conférences vont être proposées aussi en coopération avec l'Université Populaire au deuxième semestre. Et donc en ce qui concerne la date de début, voilà, elle n'est pas encore fixée, mais vous pouvez vous attendre en effet en tout cas, ou plus tard début octobre, à avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, comme c'était proposé. Et puis, la communication passera par un site internet dont nous sommes en train de finaliser les contours techniques et de contenu aussi, d'ailleurs. Et donc, certains cours certainement continueront d'être enregistrés, peut-être diffusé sur Radio Alliance, je ne sais pas. D'autres fonctionneront différemment aussi selon les intervenants. On s'adapte aussi aux pratiques des intervenants qui arrivent et qui peuvent avoir aussi leurs habitudes de diffusion ou de non-enregistrement, par rapport à tout ça. Donc on s'adapte à ce que souhaite aussi le public. Donc il faut nous dire aussi ce que vous souhaiteriez, les modalités en tout cas d'interaction avec nous que vous souhaiteriez avoir.
Nous vous tiendrons au courant. Nous vous tiendrons au courant. Donc, de différentes façons, par le site, par sans doute des mails aussi que nous allons recevoir, et puis par un affichage. Ne craignez rien, chers auditeurs et auditrices. Vous aurez encore de quoi réfléchir et puis vous épanouir par l'intermédiaire de l'Université Populaire des Religions. Pour le moment, nous nous quittons pour cette fois-ci, pour cette dernière émission de Religion en Regard. Nous aurons une autre façon de venir vers vous. Et en attendant, je vous remercie vivement d'être venu à la rencontre de Radio Alliance Plus, Philippe Corcuff. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis Claire Desménard aussi, bien sûr. Et bonne suite à vous pour la...
Je voudrais juste dire à vos auditeurs
que je vous en prie.
Tout à l'heure à 18h, le dernier atelier philo a lieu au Café Olive sur Qu'est-ce que la philosophie ? C'est le dernier de l'année, puis ça reprendra en septembre aussi.
Donc aujourd'hui ?
Oui, à 18h.
Alors aujourd'hui, on est ?
Le mardi 24 juin.
Voilà. Donc,
à 18h au Café Olive, au premier étage du Café Olive. Qu'est-ce que la philosophie ?
Très bien, merci de nous l'avoir rappelé et nous espérons que tout se passera bien encore pour ce Café Olive cette fois-ci. Nous avons eu quelques petits soucis la dernière fois, mais pour vous, bonne suite. Et puis l'année prochaine aussi, les Cafés Philo, la philosophie aussi avec le Sémaphore.
Et au Sémaphore, voilà. Oui.
Mais nous reviendrons vers vous pour en parler. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup, Christiane.
Au revoir.
Merci pour cette série d'émissions sur ce sujet. Et vous aurez le plaisir certainement d'entendre François Claveroli qui devrait prendre la suite de la coordination de l'Université Populaire des Religions à l'avenir.
Oui. J'aurai l'occasion de l'inviter aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.